On veut laisser les graines, Seigneur, qui vont être semées, pénétrer dans la terre de nos cœurs, Seigneur, et porter les bons fruits, les belles plantes, Seigneur, que tu as prévues pour notre communauté. Alors, ouin, Seigneur, les paroles que tu veux déposer dans notre assemblée, Seigneur, et que ta parole fasse son œuvre. Amen.
Amen. Merci à tous pour votre accueil. Donc, je m'appelle Pierre, je viens de l'église Confluence. Et c'est une grande joie d'être avec vous ce matin. Merci à l'église de Marguerite de nous accueillir. Et merci à tous pour vos paroles, Cali, Francesca, Henri, Aline. En fait, il y a eu beaucoup de paroles qui vont être en lien avec ce que je vais partager ce matin, parce que je voulais parler de cultiver l'unité au milieu de l'Église. Donc le Saint-Esprit fait bien son œuvre parce qu'il a déjà préparé un terrain super favorable. Merci Anthony aussi pour ta parole. Donc avant de commencer, j'aimerais vous dire deux mots, et c'est merci et bonjour. Donc merci à toute l'église de Marguerite de nous accueillir parce qu'on a eu un week-end leader jeunesse merveilleux. On a commencé vendredi soir et on s'est réunis hier dans une nouvelle cuisine super bien aménagée. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, on a différents leaders jeunesse des églises New Ground qui se sont réunis et c'est un plaisir d'être dans ce lieu. Mais merci à plus long terme parce qu'en fait, on a commencé les week-ends jeunesse en 2020 ici dans cette église avec un tout petit groupe et ça a grandi. On parle de croître, en fait ça a grandi depuis. Mais ça a aussi commencé ici, avec à l'époque des jeunes comme Nathan et Ethan qu'il fallait cadrer, qu'il fallait enseigner. Et en fait, c'est des jeunes qui ont rejoint l'équipe Leader Jeunesse aujourd'hui. Donc j'aimerais vous encourager, il y a des fruits au milieu de vous. Donc merci pour votre amour. Et le second mot, c'est un grand bonjour, pas que de moi, mais de toute l'église Confluence. Donc malheureusement, on ne se connaît pas tous d'une manière individuelle, mais j'aimerais vraiment vous saluer, on vous aime et on vous bénit, vous êtes dans nos prières. Et c'est aussi ça, des liens de famille d'église, c'est de pouvoir penser à vous. Donc voilà, je ne viens pas seul dans mon coin, mais je suis aussi envoyé par l'église qui vous salue. Et avant de commencer, j'aimerais aussi juste reprier. Merci Seigneur pour le lien de l'unité, merci pour l'amitié, merci pour la famille. Merci parce que tu nous unis, Seigneur, en Christ, nous sommes unis. Et nous voulons vraiment bénir ton nom au milieu de nous. Alors qu'on ouvre ta parole ce matin, nous croyons que tu disposes aussi nos cœurs pour recevoir dans une bonne terre. Que ton esprit nous parle, que ta parole nous parle ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Donc ce matin, je vais vous parler d'un texte. On a ouvert en fait un chapitre sur l'unité ce matin. On a parlé de Colossiens, on a parlé de Galates, on a parlé de Corinthiens, et on a pris un texte des Évangiles. Et moi, je vais parler d'un texte d'Éphésiens ce matin. Et en fait, si vous l'avez vu dans la majorité des lettres de Paul, il y a à peu près le même schéma qui se répète à chaque fois. Il prie pour les églises, il exhorte les églises, il encourage les églises et il enseigne et parfois même il réfute les fausses doctrines. C'est souvent un même modèle qui se répète. Parce que toutes les églises finalement ont le même besoin d'être encouragées dans ce qu'ils vivent et notamment sur l'unité. Et donc on peut voir que c'est des caractéristiques du ministère apostolique de Paul. Bien sûr il y en a d'autres, mais dans le cœur de l'apôtre, il est là pour encourager l'église. Je vous exhorte donc frères et sœurs, c'est une phrase qu'on retrouve souvent. Et souvent dans ses lettres, Paul commence par la prière. « Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, ou je prie afin que... » Et ça fait partie du cœur de Paul. Et ce matin, on va prendre un texte d'Éphésiens 4. Et là, c'est une partie plutôt d'exhortation pratique qu'on va regarder au sujet de l'unité. Paul y touche à la vie communautaire là, de l'église d'Éphèse. Il va pointer le doigt sur leur unité. Et alors qu'on va lire... Moi, je suis sincèrement convaincu, comme le reste des passages de la Bible, qu'en fait, c'est une parole pour l'Assemblée chrétienne de Marguerite ce matin et pour chacun d'entre nous. Alors, vous pouvez ouvrir la Bible. Je vais tester ça. Super. Et j'ai affiché aussi le texte. Donc, c'est Éphésiens 4. C'est revenu. Ouais, c'est bon. Super. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et Paul dit à l'Église, « Je vous encourage donc... moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tout et agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Et donc ce matin, comme je vous l'ai dit, on va parler jardinage, plantation et culture dans l'église locale. Et si l'église est un jardin, j'aimerais prendre cette image ce matin. Nous sommes des jardiniers pour Christ. On est appelés à cultiver de bons fruits. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet qui est l'unité, j'aimerais juste parler de l'église et vous questionner individuellement. Si je vous dis l'église locale, à quoi est-ce que vous pensez directement? Qu'est-ce que c'est l'église locale pour vous? Selon d'où tu viens, l'église locale, ça peut peut-être résonner avec des grands vitraux, des grandes salles froides. Ça peut être aussi un lieu saint, un lieu qui est consacré. Peut-être que ça sonne avec un pasteur avant tout, mais je crois que Farid, il n'est pas tout seul dans cette église. Il y a une équipe d'anciens. Ça peut être un lieu de refuge, un lieu de compassion, un lieu dans lequel on trouve du repos. Mais que dit la Bible au sujet de l'église? En fait, c'est plutôt simple. Voici l'église. Voici ce que dit la Bible. Il n'a jamais été question d'un grand bâtiment ou d'un petit bâtiment, ça c'est un moyen d'eux. Mais l'église, c'est avant tout un corps qui est composé d'hommes, de femmes et d'enfants, de cultures et d'horizons tous différents qui sont réunis par une chose, parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur et qu'ils sont remplis de grâce. Et ils se réunissent le dimanche matin et d'autres jours dans la semaine pour louer et célébrer Dieu. Et l'Église, c'est le trésor de Christ. C'est ce pourquoi il a donné sa vie. Donc j'aimerais vous dire ce matin, Église de Marguerite, vous êtes le trésor précieux de Christ. Et Jésus continue de bâtir cette Église. Non pas la cuisine, mais vous. Et c'est une parole si impactante et réconfortante, je trouve, que de savoir que nous sommes entre les mains de Jésus et qu'il continue de faire son œuvre en nous, parce que nous pouvons avoir confiance en lui. Et cette parole nous encourage, notamment, je trouve, dans une perspective de mission et d'évangélisation. Ce matin, il y a eu une prière pour la ville de Nîmes, pour ses environs. Jésus, tu bâtis ton Église, envoie-nous encore. Et donc l'Église ne rime pas avec un homme ou une femme, ou une équipe, mais il s'agit de chacun d'entre nous. Et Dieu nous appelle donc ensemble, ce n'est pas que certains, donc ce matin on ne pourra pas se cacher, chacun d'entre nous est concerné, mais je voudrais vous donner quatre principes sur l'unité. Et le premier principe sur l'unité, c'est que l'unité nous est déjà donnée et c'est à nous de la conserver. Pourquoi c'est important de le comprendre? En fait, c'est un principe indispensable parce qu'à la fois il parle de ce que Dieu a déjà fait, mais il parle aussi de ce que nous avons à faire, de ce que Dieu attend de nous, quelle est sa mission et quelle est la nôtre. Et du coup, ça nous encourage dans un sens de prière, d'intercession, de relation les uns pour les autres. Alors, pour commencer, qu'est-ce que Dieu a fait? Et ça, il faut revenir un petit peu plus en arrière dans Éphésiens. Juste avant, Paul dit « Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches. » par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui, des deux groupes, alors là, il parlait des juifs et des non-juifs. Mais on pourrait parler de nous tous aujourd'hui. N'en a fait qu'un et il a renversé le mur qui les séparait, la haine. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès au Père par le même esprit. Cela signifie que le terrain pour semer est déjà disposé. Jésus l'a fait pour nous. Il a brisé les murs de haine qui nous divisaient. Donc ce n'est pas notre couleur de peau, nos liens sociaux, nos passions communes qui nous unissent, mais c'est notre foi en Jésus-Christ qui s'est donnée et sacrifiée pour nous. Moi, je travaille dans un cabinet de recrutement. J'ai 3 jours par semaine où je travaille en cabinet. Ça fait 9 ans maintenant. Et on se faisait la remarque avec ma collègue Fanny l'autre jour. On se disait, mais dans la vie normale, si on ne bossait pas ensemble, jamais on n'aurait été amis. Jamais on n'aurait été amis. Pourquoi? Parce que moi, je suis jeune, j'ai 28 ans. Alors elle n'est pas vieille parce que je pense que je vais en choquer certains si je dis qu'elle a moins de 50 ans. Mais voilà, on a un écart d'âge assez important. On n'habite pas du tout dans les mêmes quartiers de Lyon. On est loin. On n'a pas forcément les mêmes valeurs. Moi, je fais du crossfit, elle n'en fait pas. Et ça, c'est un critère d'amitié pour moi assez important. En fait, le seul lien qu'on a, c'est le travail. Et je ne sais pas vous, mais je trouve que dans ce monde-là, en fait, aujourd'hui, tout nous sépare de ceux qui ne nous ressemblent pas. Encore plus aujourd'hui, et encore plus avec toutes les tensions politiques, les tensions identitaires et tout plein d'autres questions. Mais par contre, on n'a aucun mal à créer du lien avec les gens qui nous ressemblent. C'est beaucoup plus simple. Et C.S. Lewis, il dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, l'amitié, elle naît au moment où une personne dit à une autre, « Quoi ? Toi aussi ? Je croyais être la seule. » Et en fait, c'est nos points communs qui nous réunissent. On noue des amitiés et des relations avec des gens qui partagent souvent nos mêmes valeurs. Mais en fait, l'Église est totalement différente. Et c'est là où on voit la portée spirituelle de ce que fait Christ. Parce que l'Église, c'est le seul endroit qui réunit des petits enfants au milieu d'une salle pour danser et louer avec des adultes, avec des personnes âgées qui sont là, d'origines très différentes. On est plusieurs classes sociales. Pourquoi ? Parce que notre unité n'est pas déterminée par nos ressemblances, même par le plan du salut qui nous est commun et par lequel nous rentrons tous ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Donc ça, c'est la puissance de Dieu. C'est ce qu'il a déjà accompli. C'est ce que lui, il a fait. Il a uni ce que le péché avait séparé. Et il y a une réconciliation qui a eu lieu il y a 2000 ans, une bonne fois pour toutes, qui permet que des juifs et des non-juifs, des personnes de Nîmes, de Marguerite, de Lyon, de Paris, de Genève, puissent être ce matin ensemble. Et l'unité, elle est si importante pour le Père. L'amitié que vous avez est vraiment au cœur du projet de Dieu. Non seulement il nous réconcilie avec lui à la croix, c'est le projet. Le voile a été déchiré et nous sommes maintenant unis au Père. Il nous a donné son esprit qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous l'appelons Père, mais nous l'appelons aussi Abba, c'est-à-dire Papa. Il nous unit. Mais il nous unit aussi les uns aux autres. Le projet est important. Et je voudrais reprendre un texte de 2 Corinthiens où Paul parle aussi, il dit « Il a préparé le terrain et nous confie quoi ? La culture. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui en Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui est commun à nous. En effet, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici la part que nous avons. Dieu a préparé le terrain. Et nous, nous sommes appelés dans un ministère ensemble de réconciliation de ce monde avec Christ et de l'Église avec Christ. Donc voilà, nous n'avons pas à créer le terrain. Frères et sœurs, ça c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Mais maintenant la question que je veux vous poser c'est qu'est-ce que vous voulez voir dans cette église ? Qu'est-ce que vous voulez voir dans cette ville que l'église peut produire ? Sinon on a un champ, quelle culture vous voulez voir dessus et quels fruits vous voulez voir ? Et Paul il encourage Éphèse au verset 1 à une bonne conduite, soyez dignes de la vocation que vous avez reçue. Et c'est le second principe. Qu'est-ce que tu cultives dans l'église locale ? J'ai bien aimé cette parole ce matin qui a été donnée, je crois que c'était Henri qui disait « Maintenant peut-être qu'il y a plus devant toi, peut-être que tu as été en recul, mais maintenant Dieu t'appelle ce matin à peut-être plus. Qu'est-ce qu'il y a pour chacun d'entre nous dans l'église locale ?» En parlant culture, moi j'avais 2 grands-pères qui étaient proches de la terre. J'avais un grand-père agriculteur et un grand-père portugais qui avait juste un bon jardin comme il avait au Portugal. Alors, ce n'était pas les terrains du Portugal qu'il avait. C'était plus petit à Saint-Étienne. Mais il avait un petit jardin qui était tout en long, en fait. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était une route sans fin, ce jardin. Et il y avait toujours plein de choses différentes à manger. Il y avait des pommes de terre, des carottes, il y avait des salades. Mais c'était tout un peu en bazar. On pouvait cueillir des fruits et puis après des légumes. Puis après, il y avait des lapins. Mais c'était super, en fait. J'ai un souvenir de ce jardin qui est un bon souvenir d'enfance. Et de l'autre côté, il y a mon grand-père, Papy Maurice, qui, dans le Vaucluse, avait lui aussi un jardin, mais c'était un agriculteur. Et en fait, il avait une parcelle où tout était bien droit. C'était magnifique. On avait des melons, comme on ne mange plus aujourd'hui, des fruits merveilleux. Et quand on tournait la tête, en fait, il y avait tout un vignoble dont il s'occupait, et derrière, des arbres fruitiers. C'était magnifique. Un petit bout de paradis, franchement. Et quand je vois mes compétences en jardinage, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mes gènes qui a été sauté, franchement. C'est souvent Chloé, mon épouse, qui s'occupe de tout ça à la maison. Mais en fait, le point commun entre mes 2 papis, c'est que je ne les ai jamais vus se lever. Moi, j'étais souvent levé bien plus tard que eux, parce que pour ceux qui s'occupent de la terre, vous savez, on sait que le métier d'agriculteur, il est dur et il nécessite du travail. Il nécessite de l'énergie. Et souvent, les agriculteurs, ça leur prend tout leur temps parce qu'il ne faut pas passer à côté des saisons de culture. Il ne faut pas passer à côté des temps où il est. Il faut semer. Il y a des dates précises et il y a des dates pour les récoltes également. Il y a du job pour l'entretien. Il en est exactement de même pour nous, frères et sœurs. Dans la culture de l'Église, de nos relations, il y a des temps pour semer et il y a des temps où Dieu récolte également. Et Paul dit, en toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de l'appel, de la paix. Et Paul encourage cette assemblée qu'il aime. Il dit, efforcez-vous. Le terme, il est fort. Conservez le lien de l'unité. C'est ce qui vous unit. Prenez soin de cette église. Prenez soin de la terre qui vous a été donnée. Et s'il l'écrit, c'est que bien sûr, il sait que ce n'est pas simple. Il sait que parfois dans l'église, ça chauffe. Et à Éphèse, sûrement aussi que ça devait chauffer dans leur contexte local. Et il dit ça parce que je peux, nous pouvons, dans l'église locale, semer des roses comme nous pouvons aussi parfois semer des ronces. Et il met l'accent non pas sur les œuvres qu'il faut réaliser, mais sur le caractère. Et ce matin, je veux vous parler de caractère, parce que c'est de là que sortent les fruits pour la croissance de l'Église. En fait, en prenant part à l'Église, c'est-à-dire pas juste le dimanche matin de 10h à midi, puis après, whoop, je m'en vais. Je parle des repas, je parle des relations que vous pouvez avoir dans la semaine où vous vous appelez. Également, j'imagine que vous avez des groupes de maison, des groupes de vie, peut-être vous les appelez aussi à Marguerite. Tous ces moments de relation, nous entretenons des liens d'unité entre nous, d'une manière ou d'une autre, par nos paroles et nos encouragements. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos paroles ne sont jamais neutres. Nous sommes appelés à cultiver par nos paroles. Et ce qui est dit, c'est que nous sommes tous responsables dans l'Église. Nous tous ensemble. Là où Adam et Ève avaient pour culture le jardin d'Éden, nous avons aujourd'hui la culture de l'église locale ensemble. Et rappelez-vous que Paul y donne des exhortations qui sont concrètes dans ce passage-là. Il dit d'être concret, donc dans son application. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te tourner à gauche, à droite, regarder ton voisin, je vous invite à le faire, regardez qui vous avez à côté de vous. Ok ? Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous connaissez le prénom de la personne ? Alors là, normalement, vous allez me dire oui. Si ce n'est pas le cas, faut qu'on parle d'autre chose. Ok, vous connaissez le prénom, ça c'est simple. Est-ce que vous connaissez les sujets de prière de cette personne ? Peut-être plus compliqué. Est-ce que vous connaissez comment vous pouvez soutenir concrètement cette personne dans son quotidien ? Ok ? Je vous dis ça parce que Dieu, aujourd'hui, veut nous utiliser chacun pour bâtir l'épouse, son épouse. Et est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Moi, je trouve ça génial que ce ne soit pas tout qui repose sur les épaules d'un homme ou d'une femme ou d'un petit groupe de personnes, mais on est tous appelés ensemble à pouvoir grandir. Et ce n'est pas parce que tu ne prêches pas le dimanche matin que tu n'as pas d'impact dans ton église locale. Et dans sa grâce, Jésus souhaite t'utiliser pour porter des beaux fruits dans ton église locale. C'est vraiment un message d'encouragement. J'aimerais pas que ce matin on reparte en se disant « Ouah, j'ai une charge de pression là, il faut que d'un coup je m'occupe ». En fait, un petit peu mais pas trop, il faut doser. C'est-à-dire que oui, on a une responsabilité. Si je disais qu'on n'avait pas de responsabilité, ce serait un mensonge et ce serait passé à côté de la volonté de Dieu pour nous. Donc non, on joue collectif. Mais ce n'est pas sous la pression, c'est sous la grâce de Dieu que nous agissons. Et tout Éphésiens, si vous voulez relire ce livre, c'est une invitation joyeuse et simple à vivre l'Évangile. C'est important qu'on prenne conscience de ça parce qu'on est concerné par la question de l'unité. Alors qu'est-ce que vous aimez comme fruit et qu'est-ce que vous voulez voir à Marguerite ? Moi, j'aime la prière. Je trouve que la prière, c'est quelque chose dans lequel Dieu nous unit réellement les uns aux autres. Peut-être tu arrives le dimanche matin, tu es fatigué, tu es chargé, ça m'est déjà arrivé. J'arrive, je passe le pas de l'église, je suis fatigué, je suis pas d'attaque, j'ai pas envie. J'ai un frère qui remarque mon visage et qui me dit « T'es sûr que ça va ?»« Non, pas trop. »« Ok, bah viens, on va prier ensemble. » Et il y a une œuvre qui se fait à ce moment-là où je me sens tellement aimé, béni, et dans la prière, Dieu renouvelle les forces. Ça a un impact tellement puissant pour notre unité dans la prière. On a 4 groupes de vie, nous à Lyon, aux 4 coins de Lyon. Et on se réunit pour manger ensemble, pour prier, pour louer Dieu, pour intercéder pour la ville. Et c'est étrange, mais à Lyon, chaque groupe de vie dit que c'est le meilleur. Je ne sais pas comment, s'il y a ça chez vous aussi. Je ne vous l'encourage pas, mais bien sûr, tout le monde sait que c'est celui de Lyon-Est qui est le meilleur. Je ne vous dis pas duquel je fais partie. Et il y a 2 semaines, dans notre groupe de maison, on s'est réunis. Il y avait Christine, il y avait Ethan qui sont là et d'autres personnes. On était là et on a passé 2h30 ensemble. On a fini tard. Normalement, on fait gaffe à l'horaire, mais là, on a débordé. Mais il y avait une raison. C'est que j'avais une question. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Seigneur, pour le groupe de maison ? Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas de direction et je ne voulais pas faire vraiment de stratégie. Donc j'ai marché, j'ai fait un tour dans la ville et j'ai dit, ok, je n'irai pas au groupe de maison tant que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur. Et donc j'ai marché et au moment d'arriver, j'ai eu la réponse. Ok, ce soir, on va se poser la question, comment on va ? Mais pas juste, hey, comment ça va, comme on a l'habitude de le faire, oui, ça va et toi, oui, ça va. Non, ce soir, on va se poser la question, comment vas-tu ? Comment ça va vraiment dans ta vie ? Difficultés, doutes, réussites, joie. Et on partage les choses sincèrement. Puis après, on a prié et on a écouté Dieu pour chacune des personnes. Et on a reçu des images et des paroles ultra encourageantes. Il y a ma maman qui fait partie du groupe de vie. Et en fait, elle est dans une situation professionnelle de transition. Et il y a Christine qui a eu une image pour elle par rapport à une situation professionnelle. Quelques jours avant, je lui avais envoyé une seule annonce au postulé. Elle a 60 ans et il y a une réalité, je travaille dans le recrutement où à 60 ans, c'est plus compliqué d'être recruté. Et en fait, je lui ai dit, tu postules à un seul truc parce que je suis assez convaincu. Christine avait une image dans le même sens. Et en fait, le lendemain, l'entreprise l'a appelée pour passer un entretien. Et là, elle est en dernière phase du recrutement. Donc, il faut continuer de prier. OK ? Il y a eu des paroles de connaissance. Il y a Ethan qui avait un passage biblique super intéressant pour un jeune de l'église qui était concerné. On avait notre ami José qui est en Espagne souvent pour des projets professionnels. On le voit une fois tous les 6 mois, mais ce soir-là, il était là. On a eu des nouvelles et on a prié pour lui. Et c'était excellent de juste prendre ce temps où on a cultivé l'unité dans notre groupe en priant les uns pour les autres. Et c'est simple. Il n'y a pas besoin de grandes conférences. Il n'y a pas besoin de grandes organisations, imaginations. Parfois, il faut au festival. Pierre, c'est une grande organisation et on est béni de ça. Mais dans notre quotidien, nous sommes tous appelés à des choses simples pour rendre l'évangile concret autour de nous. Et quand on invite nos amis, nos collègues, nos voisins dans un groupe de vie où nous avons déjà cette unité, il y a un cadre qui est propice à pouvoir annoncer l'évangile ici. On a cultivé l'unité par le jardin de la prière. Et chaque membre de l'église de Marguerite a un potentiel pour ça. Ce ne sont pas que vos anciens, ce ne sont pas que vos diacres, mais chacun d'entre vous, vous êtes une source de bénédiction pour les gens qui sont autour de vous. Saisissez cette mission que Dieu vous donne. Et l'attitude que Paul encourage à adopter, elle va de pair avec le fruit de l'esprit en nous de Galates 5. Et c'est mon 3e point. Il partage 5 traits de caractère dans le verset 2, et peut-être que vous pouvez les repérer. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Super. Humilité, douceur, patience, amour et paix. Et maintenant, je vous lis Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. En fait, ce texte, il est en train de nous dire que ce que nous devons avoir pour conserver notre unité, ben en fait, l'esprit est en train de le faire en nous. Il agit au plus profond de nous et il produit un fruit qui est merveilleux. Le Saint-Esprit, il œuvre pour notre bonne culture. En fait, le Père, le Fils et l'Esprit, d'une manière très trinitaire, nous entourent pour que nous puissions grandir dans l'unité. Mais Dieu débute par s'occuper de nos propres cœurs avant de dire « occupez-vous de l'Église locale ». Parce que c'est notre cœur qui détermine notre direction et c'est la direction qui détermine nos actions et nos actions révèlent notre caractère. Je le redis, notre cœur détermine notre direction. La direction qu'on prend détermine nos actions et nos actions révèlent notre caractère. Et Paul dit « marchez, marchez d'une manière digne de cet appel que vous avez reçu en Christ ». La beauté de l'Église, ce ne sera pas dans le bâtiment, Désolé, parce que vous avez un super bâtiment, mieux que nous. Mais c'est dans la beauté des membres qui la composent. Alors, un petit peu de quelques mots sur ces qualités. Je ne vais pas toutes les citer, mais j'aimerais m'arrêter notamment sur l'humilité, qui est une qualité merveilleuse. Beaucoup de choses à dire, mais je pense que le plus simple pour la comprendre, c'est simplement placez-vous en dessous des autres. Place-toi comme en dessous des autres. L'humilité, c'est l'abaissement de soi. Et c'est très à contre-courant, évidemment, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette société qui nous appelle à briller, à être le meilleur. Mais en fait, dans le contexte d'Éphésiens, à l'époque gréco-romaine, l'humilité, ce n'était pas du tout une qualité déjà recherchée. Donc, pas d'excuses. L'humilité, ça ne veut pas dire qu'on doit dénigrer notre identité non plus. L'humilité, c'est juste la compréhension que je ne possède rien qui ne m'ait été acquis par Christ. En dehors de ce que Jésus m'a donné, je n'ai rien. Et quand on sème l'humilité dans l'église locale, en fait, on récolte ce qui ressemble au regard de Christ sur l'église. Parce que faisait Jésus ? Et je pense que c'est une question super intéressante quand on parle de l'unité. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Il a donné du temps, il a pris soin des petits-enfants, il a agi avec justice, il a été prêt à supporter lui-même l'injustice. Il a aimé et regardé aux besoins de ceux qu'il aimait avant d'observer ses propres besoins. Donc Christ est un modèle d'humilité pour nous. Si tu veux grandir dans ton humilité, lis la Bible et regarde ce que Christ fait. Et la douceur, c'est venir aussi contrecarrer tout ce qu'on vit de dur dans ce monde. On a besoin de douceur dans l'Église parce que le monde est dur avec nous. Moi, je suis très heureux dans l'Église qu'on ait de la douceur, et notamment quand on est arrivé à Confluence, donc à l'époque c'était Lumière des Nations, ça s'appelait. On est arrivé en 2019 avec Chloé et notre fille Louise qui était bébé à l'époque. On n'avait pas les deux derniers. Et c'était le dimanche 21 juillet 2019, je m'en souviens. En fait, il y avait pas mal de monde en vacances, donc c'était, je pense que vous aussi, peut-être pendant l'été, c'est en mode un peu off. Après, c'est le sud, donc peut-être qu'au contraire, vous avez beaucoup plus de monde, je ne sais pas. Mais nous, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, on a été profondément impactés ce jour-là. Le message de Rémi était bien, mais ce n'était pas que ça. Pendant la louange, en fait, il y a deux filles qui se sont levées et qui sont venues voir Chloé et qui lui ont juste dit « On sent qu'on doit prier pour toi. » Et en fait, Chloé s'est mise à pleurer à ce moment-là parce qu'on venait d'un contexte d'église où en fait, on ne priait pas trop les uns pour les autres. Et ce jour-là, on a été comme bouleversés par l'amour qu'on avait reçu dans la simplicité de quelques sœurs qui viennent pour prier pour nous. Et je suis particulièrement reconnaissant dans l'Église pour les sœurs qui ont un cœur doux. Et je sais qu'à Marguerite, c'est aussi le cas. Il y a des sœurs qui ont un cœur doux et je vous remercie pour ça. Et les frères aussi, vous êtes concernés par la douceur. Ce n'est pas une qualité que féminine. Ça ne veut pas dire qu'on est nunuche et bisounours non plus quand Paul dit ça. Quand Paul dit qu'on doit avoir de la douceur, ce n'est pas être nunuche. Parce que parfois, il y a besoin de se dire les termes. Parfois, il y a besoin de dire quand il y a un souci dans l'église locale et de ne pas faire la sourde oreille. Parce que souvent, le silence sur des situations compliquées emmène sur le long terme des choses encore plus compliquées. Donc on a besoin de se parler, mais toujours avec ce mot « humilité » devant nous. Parce que quand on se place dans un conflit, dans une incompréhension comme étant en dessous de l'autre, c'est forcément l'amour qui ressort. Et la patience va aussi avec le reste. Voir grandir l'unité, cultiver ce terrain, ça prend du temps, ça se fait sur le long terme. Et on ne peut pas raccourcir le temps que Dieu prend à construire son Église. Qu'est-ce que je veux dire ? Je pense que c'est la même chose chez vous. Quand on regarde l'Église locale, il y a 5000 besoins. Il y a 1000 besoins sociaux, il y a 1000 besoins pastoraux, il y a 1000 besoins dans l'évangélisation, il y a 1000 besoins dans la mission et il y a 1000 besoins dans les finances. Et quand on regarde ça, on a le vertige. Attends, mais qu'est-ce que tout ce qu'on doit faire là ? Comment on va faire pour aller plus vite ? Il faut vraiment qu'on prie et on va créer une commission, on va créer une équipe pour ça, 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 ça. Stop ! Hey, on revient à la base. Jésus bâtit son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église en son temps. Et son esprit nous dirige. Donc restons focalisés sur l'essentiel qui est « Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. » Dans Jean 13, 35, Jésus dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Voici notre mission au puissant verset. « Si je perds l'amour, alors je perds la patience. » Et si je perds la patience, je perds l'unité avec le corps. Et à partir de là, on peut commencer à semer des ronces dans l'église locale. Soyons vigilants. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit pour qu'il produise ce fruit en nous. Amour, joie, paix, patience, bonté, persévérance. L'église n'est pas une entreprise. Ce n'est pas une question de choses que tu dois faire ou que tu dois accomplir, d'une liste à cocher, j'ai bien fait ça cette semaine. Non, soyons inspirés dans nos œuvres. On est unis dans la foi et on est unis dans notre credo aussi. Et c'est mon dernier point, un seul credo. Un credo, c'est un « je crois », ça veut dire. Et au verset 4, assis son lit, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen à ça, c'est notre credo aujourd'hui encore. Cette fondation sur l'unité, le corps, l'Église, un seul esprit, l'Esprit de Dieu. Une seule espérance, un seul Seigneur, solo Christo, Jésus, une seule foi, un seul baptême et un seul Père. Et Calvin disait quelque chose d'intéressant que je vous partage au sujet de l'Église et des sacrements. Pour que le titre « Église » ne nous trompe pas, nous devons vérifier, comme on teste l'or, que Dieu nous a bien donné toutes les assemblées qui prétendent porter le nom d'Église. Répondent-elles aux exigences de notre Seigneur en ce qui concerne sa parole et ses sacrements? Si tel est le cas, elles ne nous tromperont pas et nous pourrons leur rendre un honneur approprié. Et si, à l'inverse, elles veulent l'être reconnues sans la parole et sans les sacrements, nous ne devrons pas moins nous méfier de cette falsification que d'éviter toute fausse rigueur dans le cas contraire. Et je suis parfois triste d'entendre « la théologie, c'est pas fait pour moi ». Ou alors, je ne veux pas me prendre la tête avec des questions théologiques. Et en même temps, il y a quelques années, j'étais un petit peu allergique à ça, mais parce que je pense que parfois, on utilise des mots qui ne sont juste pas les bons. Théologie, c'est l'étude de Dieu. Comme si j'opposais avant l'amour et la parole, l'amour et la doctrine. Mais en fait, quand on fait de l'amour quelque chose qui est séparé de la doctrine, on oublie les paroles de Christ qui dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». On a tous une doctrine. Même si je dis aujourd'hui la théologie, c'est pas fait pour moi, ben en fait, c'est un début de doctrine. OK ? Et moi, je veux étudier la parole de Dieu. C'est tout simple. C'est tout simple. On n'a pas besoin d'aller à la fac, mais si tu sens que tu dois aller à la fac de théologie pour aller plus loin, fais-le. Si tu sens que c'est un pas trop élevé, ben, viens faire vocation au milieu de cette église. Il y avait hier. Mais même si tu ne te sens pas prêt, mais ouvre ta parole dans le lieu secret et médite sur les commandements de Dieu. C'est si simple. Moi, j'ai besoin encore de méditer, je sens, les questions de la relation Père, Fils et Saint-Esprit, l'un les uns aux autres, pour comprendre qui est mon Dieu, mais pour le connaître. J'ai envie aussi d'explorer un peu l'histoire de l'Église, parce qu'il s'est passé pas mal de choses en 2000 ans, et j'aimerais pas, en tant qu'ancien, refaire des bêtises qu'on pourrait éviter parce que nos pères les ont fait avant nous. Et je veux bien pouvoir expliquer à certains qu'il y a un seul baptême. Donc la théologie, c'est l'étude de Dieu et notre unité est construite sur des fondements doctrinaux. C'est ce que dit ce texte. Il y a 7 fondements. On n'est pas construit sur la réforme, ok ? En fait, la réforme n'apporte rien de nouveau. Elle vient juste remettre sa place centrale à la parole de Dieu dans l'Église. Donc ce n'est pas la tradition, ce n'est pas sur mes ressentis, ce n'est pas sur mon expérience personnelle, mais c'est sur la Bible que je base ce que je dois faire. C'est la seule autorité. Et j'examine mes expériences et mon ressenti à la lumière de la parole, mais je n'examine jamais la parole à la lumière de mes expériences et de mon ressenti. Très important, je pense que c'est classique, mais si important de se le répéter. Parce que si j'examine la parole à la lumière de mon expérience dans l'Église, bah, en fait, parfois, l'Église, c'est génial pour moi. Et il y a d'autres fois où je n'ai pas du tout envie d'y aller parce que mon âme et mon ressenti me disent que franchement, je vais y aller, ça va pas être bien. Et donc ma compréhension du plan de Dieu pour l'Église va un jour être bien et un jour va pas être bien. Parce que je suis souvent encouragé quand je vais à l'Église, mais il y a aussi parfois des fois où je suis découragé et j'espère ne pas être le seul. Et que dit la parole ? Que dit la parole, encore une fois ? Mes amis, efforcez-vous à conserver l'unité de l'esprit. Ok, mais mon ressenti me dit que c'est dur là de conserver avec ce frère, c'est difficile en ce moment. Ok, mais que dit la parole ? Eh bien, en fait, Jésus dit et nous encourage dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Ok, donc la parole de Dieu me dit que j'ai un Jésus, un Seigneur et un Sauveur qui est compatissant et qui connaît parce qu'il a vécu avant moi des douleurs, même avec ses disciples qui l'ont renié. Ok, donc Seigneur, si tu l'as fait, peut-être que ouais, je peux te suivre derrière ça. On ne peut pas mettre en confrontation les fondements d'amour de la première partie d'Éphésiens 1, Éphésiens 4, avec la deuxième partie qui parle de notre croyance. En fait, c'est deux fondations ensemble pour l'unité. La fondation de l'amour, ce que Dieu nous appelle à faire, mais la fondation également dans une seule parole, un seul esprit, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Donc s'efforcer de conserver l'unité pour nous, c'est veiller aux deux. C'est quand je sème dans l'Église, en fait, je sème en ayant cette disposition. Je suis OK, la parole, je suis OK que la parole est utilisée et je suis OK que j'utilise l'amour pour semer dans l'Église locale. Pas l'un, pas l'autre, mais les deux ensemble. OK ? Et donc pour résumer, j'aimerais vous redonner les quatre points. L'unité nous est donnée, acquise en Christ, c'est à nous de la cultiver. Il a fait une part de travail et nous cultivons dessus maintenant. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous responsables. Dieu utilise chacun d'entre nous pour une croissance qui est saine et collective. La troisième, c'est de notre cœur naissent les fruits. C'est de notre caractère que Dieu travaille. Amour, paix, patience, humilité et douceur. Et le quatrième point, c'est ne négligeons pas notre credo, notre je crois. Et donc j'aimerais conclure en faisant deux choses. Le premier, c'est en vous partageant trois pistes concrètes pour semer l'unité. Et donc dans ces trois pistes, le premier, c'est ne négligez pas les repas. Ce n'est pas une blague. Acte 2, 46, voici ce qu'il était dit au sujet de l'Église primitive. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et je pense que l'un des signes d'une famille en bonne santé, là je ne parle pas de l'Église locale, je parle d'une famille avec des parents, des enfants, un couple, c'est de manger ensemble le soir à table. Enfin, ce n'est pas toujours simple. Peut-être que certains sont challengés et disent « Ah, moi, pendant longtemps, on a un peu négligé ça avec Chloé. » Mais je crois que manger ensemble le soir, s'écouter, savoir comment s'est passée la journée, juste partager ce repas, c'est un moment qui est super sain et super important pour une bonne croissance de la famille. Pas que des enfants, mais aussi du couple et du foyer de manière générale. L'Église est une famille et nous devons manger ensemble les uns les autres pour apprendre à nous connaître. Profitez des temps informels que vous pouvez avoir. Invitez vos amis, vos frères, vos sœurs. Invitez aussi ceux que vous connaissez moins et qui arrivent dans l'église locale pour qu'ils se sentent aimés et qu'ils se sentent chéris. Et au retour, parfois, faites-vous inviter aussi, ça peut être bien. Mais profitez de ces temps, rompez, mangez ensemble. Ces temps informels, Jésus les a fait tout le temps. Il a mangé avec plein de personnes différentes et les repas sont un cadre que Dieu veut pour nos temps de communion. La deuxième chose, donc j'en ai parlé, mais c'est la prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. La prière du juste a une fervente efficacité. Donc de manière vraiment concrète, parce que Paul est concret, pour qui tu vas prier cette semaine dans ton église? Pour qui tu vas intercéder et venir devant Dieu? Quel sujet tu veux apporter pour ton assemblée? Et quelles sont les prochaines étapes pour la famille Marguerite? Quand on prie pour nos frères et nos sœurs, Dieu, il fait naître en nous un amour. Vous le vivez ça dans la prière? Quand on prie, quand je prie pour un frère, en fait, mon amour grandit en même temps que je prie. Et la prière impacte à la fois parce qu'on intercède, mais également parce qu'on cultive un amour qui est dans le secret, dans l'intimité de la chambre haute. Et le dernier point, c'est transmettez aux enfants, aux jeunes, ce que vous avez reçu de Dieu et l'unité que vous avez construite entre vous, ne concerne pas que les adultes, mais ouvrez la porte aussi pour que vos enfants et vos adolescents puissent prendre part à l'Église. Et ça ne veut pas dire juste organiser un culte de temps en temps en faveur des enfants, mais ça veut dire au quotidien, voyez comment vous pouvez les aimer, les bénir, prendre soin d'eux, les questionner sur ce qu'ils vivent et pour qu'ils se sentent aimés et faisant partie d'un corps. Sur le long terme, ça a vraiment des effets et je pense que les leaders jeunesse peuvent en attester combien prendre soin des jeunes sur le long terme peut permettre de voir des réussites et des progressions dans le royaume de Dieu. Voilà, et donc le dernier point pour finir très rapidement, c'est quelques pensées que je veux vous apporter. La première, c'est que nous sommes des humains qui sommes en cours de sanctification. Donc on est forcément faillible dans nos communications parce qu'il y a des oreilles qui reçoivent et une bouche qui donne et parfois, entre les deux, il y a une communication qui peut être un petit peu perturbée. mais nous sommes dépendants de la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est rechercher l'unité dans l'Église. C'est forcément méditer toujours, toujours, toujours que dirait, penserait et ferait Jésus à ma place à ce moment-là. Troisième point, c'est patienter, supporter, aimer. Ce n'est pas toujours simple. La preuve, Jésus est mort pour nous à la croix. Quatrième point, c'est que les blessures du passé, ce que tu as pu vivre, ce que j'ai pu vivre dans mon ancienne église, ces blessures-là ne doivent pas impacter ton unité avec l'église locale aujourd'hui. Et le dernier point, c'est que l'église ne remplacera jamais l'œuvre que Jésus réalise en chacun de nous, une œuvre de guérison. Et c'est à Christ que nous venons être guéris et non à l'église locale. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui libère et c'est lui qui nous appelle. Amen. J'aimerais juste prier pour vous et puis redonner la parole à Farid. Seigneur, je veux vraiment bénir ton nom pour cette assemblée chrétienne de Marguerite et vraiment te demander, Seigneur, de merci pour le terrain que tu as placé devant eux déjà depuis plusieurs années et merci pour toute la culture qui a lieu dans cette église. On a parlé des fruits dans la jeunesse qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu, Seigneur. Et je te prie que vraiment tu inspires au milieu de nous, par ton esprit, de nouveaux fruits. Merci parce que tu nous diriges en tout temps et Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de ta volonté, mais nous voulons vraiment chercher que veux-tu faire pour la ville de Marguerite ? Que veux-tu faire de plus dans cette équipe, dans cette famille ? Seigneur, je te prie vraiment que tu inspires encore de bons fruits. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes et je veux te prier particulièrement pour celles qui se posent la question ce matin. Oui, mais quelle est ma place ? Qu'est-ce que je dois faire moi ? Je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment de talent. Et Seigneur, je veux vraiment te demander que tu sèmes en eux ce matin une graine de grâce, qu'elles puissent proclamer la grâce qu'elles ont reçue, Seigneur, pour l'envoyer à d'autres. Je te prie pour l'amour, la paix et la joie au milieu de cette assemblée, Seigneur, que ces fruits soient vraiment manifestés et qu'ils puissent le vivre au nom de Jésus. Vraiment que ton esprit agisse sur eux. Nous te remercions, Seigneur, pour les paroles prophétiques, pour les paroles d'encouragement qui ont été données ce matin. Et nous te prions que tu continues ça dans cette semaine qui arrive. Seigneur, que tu nous amènes à méditer. Que veux-tu de moi pour l'Église ? Que veux-tu de moi dans mon groupe de maison ? Que veux-tu de moi pour la personne qui est à ma gauche et à ma droite, Seigneur, cette semaine ? Je veux être vraiment focalisé et porter mon attention sur ce que tu désires, Seigneur. Merci parce que tu bâtis ton Église. Nous avons une solide et assurance confiance que tu exerces toutes choses bonnes pour nous, Seigneur, et que nous sommes dans les mains du Dieu puissant. Dans ces contextes compliqués en ce moment de bruit de guerre, de tensions politiques, Seigneur, tu règnes. Au nom de Jésus, nous le déclarons ce matin. Et je veux vraiment bénir cette Église en ton nom, Jésus. Amen.